Sur nous, tandis que d'autres, par contre, statuent d'après ce qu'ils ignorent. Le jour du grand jugement, il n'y aura plus qu'un seul dossier, celui qui sera constitué par les livres de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean dit ceci : Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis des morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Les livres de Dieu ne contiendront aucun élément d'approximation, et aucun doute ne sera possible quant à la précision de leur contenu. Il n'existera aucune pensée, aucune action, aucun mot qui n'y soit révélé. L'Ecclésiaste le dit bien. Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tout ce qui contribuera à un jugement parfait et juste sera alors connu et rendu public. Il n'y aura nul besoin de faire appel à des témoins, car le juge, étant omniscient, aura une connaissance approfondie de tous les êtres qu'elle aura à juger. Il connaîtra parfaitement chacun d'entre eux dans le détail. Ceci devrait créer en nous le profond souci de connaître ce que l'Éternel écrit sur les pages de son dossier qui nous concerne en particulier. Nous devrions faire diligence pour lui demander conseil, croire sans réserve à sa parole et obéir scrupuleusement à sa volonté. Chacune de nos actions devrait revêtir un intérêt tout particulier, étant donné que Dieu amènera toute œuvre en jugement. Nos paroles devraient être soigneusement pesées à la lueur de ce que Jésus dit un jour. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Nos cœurs devraient battre à la cadence de ce Dieu qui, lorsque le moment sera venu, manifestera les desseins des cœurs. Le dossier de jugement de Dieu sera immuable à l'encontre de ceux des hommes nombreux et faillibles par nature. Dans la vie, nombreux sont ceux qui nous jugent. Les parents sont jugés au travers des actions de leurs enfants et vice-versa. Les maris le sont par la manière de se comporter de leurs épouses et inversement. Il n'est pas rare de voir une famille entière souffrir à cause d'une faute commise par un des siens ou être honorée grâce au succès remporté par un de ses membres dans tel ou tel domaine. Il existe des hommes ou des femmes que l'on croit chrétiens car leurs conjoints sont de fidèles disciples de Christ. Dans cette vie, nous pouvons chercher à être jugés avec la masse de nos concitoyens pour essayer d'éviter les rigueurs d'une condamnation qui ne viserait que nous seuls. Mais le jour du jugement dernier, chaque individu sera jugé en particulier, en dehors du contexte de masse. Les maris ne pourront se cacher derrière leurs épouses, et les femmes ne seront plus protégées par leurs maris. Les parents ne pourront répondre en lieu et place de leurs enfants, et vice-versa. C'est absolument seul que nous devons nous tenir devant le juge suprême. L'Épître aux Romains le précise bien. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Dans sa dernière Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul développe les mêmes pensées lorsqu'il ajoute « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Durant la vie sur terre, nous sommes peut-être à même d'éviter une confrontation directe avec notre Créateur. Nous pouvons même chercher à nous cacher devant sa face. Peut-être ne nous sommes-nous jamais sentis en sa présence à cause de notre attitude générale, ou peut-être sommes-nous allés parfois jusqu'à nier son existence. Une chose est cependant certaine, c'est qu'il y a une rencontre que nous ne pourrons éviter, la dernière. Nous aurons beau chercher notre femme ou notre mari, ou de tenter de saisir nos enfants par la main, tout cela sera inutile, car nous serons seuls. Désespérément seul. pas vous et moi devons nous retenir seuls en présence de notre Dieu, et nous serons forcés de regarder le Dieu de gloire bien en face, droit dans les yeux. Il sera alors inutile d'essayer de rejeter la faute sur notre compagne ou notre compagnon, sur les circonstances de la vie, sur l'environnement, ou les enfants, ou les parents, ou les traditions et les habitudes. Tout pèsera sur nous, car nous serons le seul responsable. Au jugement dernier, une seule personne sera devant Dieu. Il n'y aura plus qu'un seul juge. Dans la vie, nous inspirons l'air un nombre incalculable de fois dans nos poumons, car l'Éternel nous accorde de longues années à vivre. Tout a cependant une fin, et un jour arrivera où nous inspirerons l'air une seule et dernière fois. Les cœurs et les mains de ceux qui nous auront aimés ne pourront plus ni rien y faire. Nos amis et parents bien-aimés seront assemblés autour de notre lit. Les larmes couleront librement, et des adieux seront dits. Une dernière fois, nous tiendrons la main de notre compagne ou de notre compagnon des bons et des mauvais jours. Nos yeux verront la lumière décroître pour graduellement faire place à l'obscurité. C'est alors que notre corps fera un dernier effort. Nos poumons se rempliront une dernière fois d'air et nous l'expirerons sans mal. Nos pieds entreront alors dans les eaux glacées de la rivière de la mort. Les paroles de l'épistolier aux Hébreux prendront alors leur signification plénière. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Très souvent, nous découvrons que les occasions ne manquent pas de renverser l'opinion que de semblables ont de nous, ou les jugements qu'ils ont portés contre nous. Nous pouvons, par exemple, payer totalement une dette envers la société et être quitte envers elle. Il arrive également qu'un ménage arrive au bord de la faillite et qu'ensuite la situation se retourne car l'un des conjoints a fait tous ses efforts pour se sauver ainsi que sa femme. Nous pouvons parfois arriver à nous racheter en prouvant par la patience et la détermination que nous n'étions pas aussi coupables que chacun le pensait. Mais lorsque la vie arrivera à son terme, tous nos efforts deviendront inutiles car nous devrons nous montrer sur notre vrai jour, quel qu'il soit. Richard Hill disait ceci. Les sots mesurent leurs actions après leurs accomplissements, par l'événement lui-même. Les sages à l'avance par les lois de la raison et du droit. Les premiers attendent la fin pour juger l'acte. Quant à moi, je veux regarder l'acte avec lucidité et laisser la fin à mon Dieu. Lorsque le temps du jugement du Fils de Dieu sera donné, il n'y aura plus de cour d'appel, plus de pétitions à présenter au chef de l'État, plus de supplications à faire. Il n'existera pas non plus de seconde chance. Jésus dit en effet, en décrivant le jugement et en parlant des injustes, « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Combien triste sera le sort de ceux sur qui, à la fin des temps, s'abattra le courroux de Dieu. L'apôtre Paul dit à propos de cela que le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Celui qui mourra dans le péché, demeurera dans le péché pour l'éternité. Ni la moralité, ni la spiritualité de l'homme ne seront changées dans l'au-delà. Telle est la volonté de Dieu. Une question reste à poser. Êtes-vous prêt à affronter ce jour du jugement? Une chose est certaine, c'est que nous devrons tous comparaître devant Dieu. Le temps presse. Qu'y pensez-vous? Le fait que vous vous prépariez ne ratera pas le jour du jugement, mais vous aidera à le traverser avec sérénité. Demain, peut-être, je te croirai, et pour mon maître, je te prendrai. Ainsi, quand Dieu l'invite, l'âme répond, « Attends. » Ah, pécheur, entre vite. Viens, il est temps. Demain, peut-être plus de pardon. Quoi, méconnaître un pareil temps? Dieu t'offre dans sa grâce le bonheur des élus avant que l'heure passe. Viens à Jésus. Demain, peut-être du châtiment, tu vas connaître l'affreux tourment. Jésus t'appelle, il t'aime. Il est le seul chemin, viens. C'est l'instant suprême. Pourquoi demain?
Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.
Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous la présente. Mais qui sont-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autres noms. Ils ne sont attachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi, et surtout, dans le Nouveau Testament, notre unique chef, Jésus-Christ, seul, ses enseignants et ceux des apôtres, font autorité dans la foi. Nous parlons de ce que la Bible dit et demandons silencieux à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques.